la sorella di Gesù Cristo.
La sœur de Jésus-Christ.
Di Oscar de Summa.
Traduit de l'italien par Federica Martucci. Chapitre 1.
Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en son combat ne sera point effet.
Maria, la sœur de Jésus-Christ, empoigne un pistolet Smith & Wesson 9 mm rangé dans le buffet de la cuisine. Assoupie là depuis d'innombrables années sans avoir jamais manifesté son utilité. Arrivée là grâce à l'oncle d'Amérique, qui, faisant ce cadeau à la famille Calandra, avait songé à l'utile et à l'agréable, car il connaissait la passion de Pietro Calandra pour les westerns en général et pour le mythique Clint Eastwood en particulier. Il avait ajouté en remettant son cadeau « Et puis de toute façon, vu que vous vivez à la campagne, ça pourra toujours vous rendre service. » Mais heureusement, jusqu'à ce jour, l'illustre Smith & Wesson 9 mm n'avait jamais rendu service. L'oncle était retourné en Amérique et on ne l'avait plus jamais revu, plus jamais entendu. D'aucuns espéraient qu'il laissât quelque héritage caché, mais je ne crois pas que cela ait fini par arriver. Ce pistolet, en revanche, avait été rangé, chargé, dans le tiroir du buffet de la cuisine, au cours d'une cérémonie pour le moins officielle, à portée de main, certes, mais avec l'interdiction absolue, ne serait-ce que de l'effleurer du regard. Et là, petit à petit, il était tombé en léthargie. Mais aujourd'hui, Maria, la sœur de Jésus-Christ, pour la première fois depuis le début de l'histoire de ce Smith & Wesson 9 mm, avait ouvert le fameux tiroir avec la ferme intention d'empoigner l'arme. Et, de fait, elle l'avait empoignée.
Et maintenant, de nous deux, voyons qui n'a pas le choix.
Elle bascule le barillet chromé de l'arme et vérifie qu'à l'intérieur s'y trouvent bien les 8 projectiles argentés. D'un leste mouvement de la main, elle referme le barillet et apparaît sous la véranda de l'entrée principale de la Villa des Chrysanthèmes, au bout de la rue des Martyrs, dans le secteur du Mont du Diable, au numéro 27, en rase campagne. La porte moustiquaire en bois cogne violemment sur ses gonds, au point de réveiller la grand-mère, qui, comme chaque jour, est plongée dans ses casseroles et ses poêles, occupée à faire bouillir, revenir, retourner, sauter et mélanger, rissoler, brûler et dorer l'entière myriade de légumes et légumineuses et fruits et froments et farines que cette même villa des chrysanthèmes produit copieusement chaque année, sans pour autant rogner sur la qualité. La sœur de Jésus-Christ a les yeux limpides de ceux dont l'intention cristalline vise un but précis. Le temps d'un instant, elle fixe son regard sur les oliviers. Elle attend, là, dans l'allée de l'entrée principale, sans dire un mot. Le son revêche des cigales tranche comme une lame, l'air raréfié de 2 heures de l'après-midi. Un Gethsemane dans le sud de l'Italie. Mais la grand-mère insiste, cherchant une confirmation de sa propre existence.
Maria !
Mais Maria, la sœur de Jésus-Christ, ne répond pas. Elle lève son Smith & Wesson 9 mm, presse la détente du pistolet et tire 2 coups de feu en l'air pour s'assurer que l'instrument sait encore jouer de sa musique. L'abrupt contre-coup lui foule presque le poignet. Mais l'instrument est bon. La musique est précise, la musique est juste. Maria répète.
Et maintenant, de nous deux, voyons qui n'a pas le choix.
Puis elle déroule sa longue jambe devant elle et d'un pas décidé, franc, déterminé, elle part. Mais la sœur de Jésus-Christ s'est déjà mise en route et ne s'arrête pas. Bien au contraire, elle n'a aucune intention de s'arrêter. Pas même si un convoi militaire pointait sur elle un canon dépassant de beaucoup ses implacables 9 mm.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Un store se relève violemment au premier étage.
Grand-mère ! Grand-mère !
Les poules tapagent dans l'arrière-cour, les oies criaillent.
Grand-mère !
Des chats feulent. Des chiens enchaînés continuent d'aboyer sans mollir.
Grand-mère ! Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici ?
Mais Maria avance.
Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !
La grand-mère s'est précipitée sous la véranda. Et elle la voit marcher d'un pas rapide, comme sur les eaux, avec à la main le Smith & Wesson 9 mm débarqué un jour d'Amérique.
Maria, tu vas où ? Ne fais pas ta folle comme à ton habitude ! Il s'est passé quoi cette fois ? Reviens ! Arrête-toi, Maria ! Putain, mais qui a tiré, mon Dieu ?
Celui qui parle de là-haut depuis le premier étage, c'est Simone, surnommée Jésus-Christ. Petite parenthèse pour clarifier un peu les choses. Il est surnommé Jésus-Christ à juste titre parce que tous les ans, depuis quelques années maintenant, durant la Passion vivante, il interprète le rôle du Très-Haut. Un garçon d'une beauté. Il en vient de tous les villages alentours pour le voir. Nez droit, regard profond, cheveux longs, deux épaules larges comme ça, la spiritualité faite homme. Quand il est là, curieusement, l'église atteint un pic de fréquentation. Voilà pourquoi Maria est surnommée la sœur de Jésus-Christ quand elle passe dans la rue précédée de ses longues jambes. On entend...
Oui, oui, gaffe, la sœur de Jésus-Christ.
Sainte Vierge.
Non, pas la Vierge, la sœur de Jésus-Christ.
Ah, j'ai compris, je disais ça comme ça.
Elle fait de ces miracles.
Ne me dis pas.
Oh si, je te dis.
La multiplication des poissons et des pains.
Oh.
Je la mordis et je la mange toute crue.
Une folle furieuse qui déclenche à chaque fois une tragédie et nous fait honte devant tout le monde. Toujours à faire mauvaise figure à cause de son caractère de merde. Quand ton père la prendra, où tu vas voir. Mais arrête-la. Arrête-la, mon Dieu, arrête-la! Mamma mia! Arrête-la! Arrête-la!
Grand-mère, tu vas la fermer une seconde!
La grand-mère a, de toute évidence, perdu le contrôle.
Une folle furieuse! Et moi, je me demande d'où elle est sortie, celle-là! En vrai, c'est la fille de qui?
C'est toi, grand-mère, bon sang! Maria! Maria, tu m'as ouverte! Ne fais pas ta folle! Maria, reviens ici! Putain, merde! Tu vas où avec ce pistolet ? Reviens là, reste là !
Mais Maria, surnommée la sœur de Jésus-Christ, vogue sur les eaux de la vie en direction contraire et obstinée, vers le village, sans flancher. Chapitre 2.
Un envol d'oiseaux indique que l'ennemi se tient en embuscade. Lorsque les animaux sauvages, effrayés, s'enfuient, l'ennemi essaie de vous prendre par surprise. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque.
Sur le côté gauche de la rue, des voitures abandonnées forment des labyrinthes de tôles. Un musée archéotechnologique de l'abandon expose au grand jour l'habitude qu'a l'humanité de jeter, sans trop de scrupules, ce qui ne lui sert plus. Une grue, puissante, ramasse ses habitats mobiles et les encastre méthodiquement l'un sur l'autre. Les divers étages sont comme de vieux albums photos de l'humanité. On peut entrevoir dans les habitacles les bribes d'une ère, d'une époque d'aspiration, de vies qui ont laissé la trace de leur passage sur Terre. L'espoir des années 60, la force des années 70, l'arrogance des années 80. Un jeune homme en salopette, torse nu, fouette l'air à coups de commandes brusques.
Droite ! Droite ! Descends !
La voie est presque couverte par les bruits sourds émis par la grue.
Gauche !
Bruit sourd.
Gauche !
Bruit sourd.
En bas.
Coup de fouet dans l'air limpide. Bruit sourd.
Descends.
Bruit sourd. Bruit sourd. Bruit sourd. Soudain le silence. Renzo Casotto. Petite parenthèse, dans le Sud, les surnoms ne sont pas le fait du hasard. Ils sont choisis intuitivement et minutieusement. Renzo Casotto, donc, perché sur la grue, reste soudain dépourvu d'ordre. D'abord il attend, puis il s'adresse à son frère sur un ton diplomate. Mais son frère Alessio, celui qui se trouve en bas, ne semble manifester aucun signe de sa présence. Ici, la présence est toujours limite. Le soleil qui cogne fait que tout devient une abstraction qui se confond avec l'imagination. Ici, il y a toujours le risque de se fondre dans le paysage. Renzo se tourne pour vérifier que son frère existe encore, et de fait, il le trouve là, mais occupé à regarder vers la rue. Alors, lui aussi se tourne vers la rue. Tout d'abord, il scrute, observe, jauge. Puis, encore une fois, laconique, il s'adresse à son frère, mais sur un ton un peu moins diplomate.
Oh, et alors ?
Mais le frère, celui qui se trouve en bas, ne répond pas, perdu dans la perspective. Alors Renzo descend de la grue, rejoint son frère et lui dit
« Mais tu vois ce que je vois ? Toi, tu vois quoi ? Moi, je vois la sœur de Jésus-Christ avec un pistolet dans la main. »
Oh, putain ! Moi aussi ?
On dirait un Smith & Wesson 9mm.
Putain ! C'est bien elle !
Une belle arme.
Oh putain ! Un canon !
Elle va encore faire des siennes.
Oh, cette fille est folle.
Putain de merde.
Ouais ! Putain de merde !
Alors, pas mal du tout cette nouvelle herbe, hein ?
Et il rit. Il rit et leur rire fracasse l'air, comme des vagues. Entre-temps, Maria s'approche d'eux. Ils attendent. Ils attendent qu'elle leur fasse un signe, un geste de la tête, quelque chose. Mais Maria arrive à leur hauteur et leur passe sous le nez sans même leur adresser un regard. Alessio, le plus entreprenant des deux frères, demande diplomatiquement
« Oh, Maria !»
Mais Maria ne se retourne pas.
« Maria !»
Mais Maria a déjà filé.
« Maria !»
Alors ils grimpent sur leur Kawasaki 1100 et commencent à la suivre.
Oh, Maria !
Ils l'accostent.
Maria ! Maria ! Maria !
Mais elle, rien. Et en attendant, les voilà qui passent devant le stade, ou quelque chose qui a la prétention d'être le stade. Parce que ça, des stades, des terrains de foot ou des mini-terrains de jeu, il y en a toujours. Quelqu'un, sur le bord du terrain, qui est là pour suivre l'entraînement, se retourne, et remarquant cette étrange situation, dit
« Hé, les bordels, il se passe quoi, là ?»
À ces mots, les autres aussi se retournent. Et puis, comme une explosion silencieuse, la phrase enfle dans l'air, jusqu'à rejoindre sur le terrain deux hommes en culotte courte et chaussures à talons. 19 mm de crampons, c'est du talon, non ? Ils courent après des ballons entre des pieux. Le temps d'un instant, observons la scène du dehors. Des hommes en culotte courte qui courent après des ballons entre des pieux. Courir après des ballons entre des pieux. Une métaphore. Bon, passons. Ils s'immobilisent, se regardent, regardent à l'extérieur du terrain, se regardent à nouveau, s'approchent des filets de protection, puis répètent eux aussi en chœur.
Mais, il se passe quoi là ?
Parmi eux se trouve un certain Ulderico, un très court temps, fiancé officiel de la sœur de Jésus-Christ. Un état impliquant une certaine responsabilité. Et de fait, ça n'avait pas duré longtemps. Mais Ulderico connaît Maria et sa détermination, et donc il s'inquiète. Ou plutôt, il connaît Maria, sa détermination et sa créativité. Et donc il s'inquiète beaucoup. Il se détache rapidement du groupe en culotte courte qui s'affaire avec les ballons et les pieux et se dirige vers elle. Maria, un pas après l'autre, martèle le temps, l'inexorable. Et lui, en culotte courte et chaussures à talons, trottine à ses côtés. Il cherche à entrer en contact. Il se sent ridicule. Il est ridicule.
Maria! Maria! Arrête-toi une seconde. Maria! Allez, écoute-moi. Mais qu'est-ce qui se passe, hein?
Mais penses-tu, elle, rien. Inflexible. Elle avance inexorablement. Lui, cliquetis des petits talons métalliques sur l'asphalte. Un tic-tac tragique.
Maria, écoute, Maria. Arrête-toi une seconde. Maria, allez, écoute-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Il est arrivé quelque chose? Tu veux bien en parler? Allez, arrête-toi une seconde, allez!
Mais elle, rien. Inflexible, inexorable. La détermination, c'est le dieu de Maria. La créativité, son bras droit. Alors Ulderico joue la carte du choc sonore.
Maria!
Mais penses-tu? Elle, rien. De plus en plus inflexible, inexorable. Pour toute réponse, en arrière-plan, les frères Casotto, perchés sur leur moto, mettent les gaz et disparaissent en direction du village. Ulderico, vaincu, s'arrête pour reprendre son souffle. Le tic-tac est terminé. Certains ont pris leur scooter, d'autres leur voiture. Des femmes sortent des champs voisins. Des vieux apparaissent sous les vérandas, tandis que Maria avance inexorablement. De loin, les joueurs de foot stupéfaits la suivent des yeux. Chapitre 3.
En terrain mortel, je pourrais montrer qu'il n'y a aucune chance de survie. Car il est dans la nature des soldats de résister lorsqu'ils sont cernés, de combattre jusqu'à la mort lorsqu'il n'existe pas d'autre solution, et lorsqu'ils sont aux abois, d'obéir aveuglément. On se défend lorsqu'on dispose de moyens suffisants. On attaque lorsqu'on dispose de moyens plus que suffisants.
Ange annonciateur novice, les frères Casotto sur leur Kawasaki 1100 ont répandu en long, en large et à travers le village la nouvelle de cette marche du sel à l'envers, accomplie par la sœur de Jésus-Christ qui martèle le temps, un Smith & Wesson 9 mm à la main. Sous le panneau « Bienvenue à Erquier, province de Brindisi, cité médiévale, ville d'Europe », stationnent à présent des gens sortis des bureaux en veste et cravate, des retraités jusque-là parqués dans les bars, des ouvriers de l'établissement vinicole de Pépinot-la-Barrique, des maçons à l'arrêt sur les toits et sous le soleil, Donato de la station-service, Mimino de la laverie et sa mère, Carlo l'épicier, Anselmo le photographe, Francesco de la quincaillerie, toutes les épouses, les mères et les filles respectives qui peuplent les lieux ombragés de ce petit, tout petit village du Sud. Tous là, à regarder, mais personne qui n'ose arrêter cette jeune fille qui marche fièrement et sans fléchir vers son inexorable destin. Soudain, se détache de la foule un certain Cicillo. Petit, tassé, trapu, avec des yeux globuleux, la preuve vivante du passage des Turcs dans cette région, il laisse s'échapper une confidence.
Hier, pendant la Passion vivante, il paraît que Maria a peut-être eu affaire à Angelo le couillon, celui du magasin de meubles, là, celui qui a fait des études.
Tout le monde se tourne vers Cicillo. Silence. Tous l'observent. Puis tous regardent à nouveau vers la rue. Cette silhouette avec pistolet et petite foule à sa suite, tandis que la ronde des médisances s'enflamme. Mais, comme une tape s'abattant sur la nuque de l'apprenti qui commet l'énième erreur, Cicillo assène une nouvelle phrase de derrière l'assistance.
Hier, pendant la Passion vivante, quand elle a eu affaire à Angelo le couillon, lui, enfin, peut-être lui, parce qu'en fait, ils étaient trois ou quatre, alors je dis peut-être, ben lui, il s'est jeté sur elle.
Tous se tournent à nouveau vers Cicillo. Le silence désormais est devenu gigantesque, une montagne. Tous ramènent leurs regards vers la silhouette avec pistolet et petite foule à sa suite, qu'ils reconnaissent à présent comme étant, tout simplement, une jeune fille dans une colère noire.
Vous êtes de gros connards ! Débauchés, délinquants, mauvais sang, fauchés et minables ! Une bande de pauvres types qui sait seulement parler et jouer au caïd devant les plus faibles et les chiens ! Que Dieu vous maudisse tous ! Et ce verre que vous avez entre les jambes et que vous passez votre temps à sortir comme si c'était une chose importante, espérons qu'il tombe. De toute façon, tôt ou tard, il arrêtera de se mettre au garde à vous. Et alors je voudrais bien l'avoir, toute votre morgue. Combien j'en ai vu, moi. Humilié par ce verre mollasson qui ne se dresse plus. Bâtard, tête de gland.
Tata!
Tata, mon cul. Vous lui avez fait quoi, au juste?
Tata, moi j'ai rien fait, hein.
C'est facile maintenant de dire que t'as rien fait. Dépravé. Mauvais. De la même race que ces maudits mâles.
Et tata, moi j'y étais même pas.
Je t'ai demandé ce que vous lui avez fait au juste.
Le premier qui s'est arrêté, je vous jure que je le tue de mes propres mains.
Décidément, c'est la journée. Non, parce que tandis que ces deux-là se disputaient sous le panneau « Bienvenue à Erquier, province de Brindisi, cité médiévale, ville d'Europe », il s'était créé une drôle de situation. Paradoxale. Une dizaine de petits vieux avaient débarqué, ceux du club des chasseurs, fusils à la main. Ils s'étaient postés dans le dos de Maria et avaient pointé leurs armes vers la foule, à l'affût d'une personne susceptible d'arrêter cette marche. À l'affût de quelqu'un qui, poussé par la peur plus que par le sens civique, se dissocie de la foule pour aller appeler les gendarmes. Car ici et maintenant, la peur n'a pas lieu d'être. Ici, la peur n'a plus de maison. Que s'était-il passé? Quand la rumeur de cette marche était parvenue jusqu'aux oreilles de Rosario Lafu, le président du club des chasseurs, homme d'un seul tenant, gentilhomme d'un autre temps, quasiment la copie méridionale de Clark Gable, celui-ci avait soudain eu une illumination. Il avait filé chez lui. Petite armoire au fond du garage, il ouvre le cadenas, il prend son fabarma de coups, il le charge et revient sur ses pas. Tandis qu'il quitte sa maison, Romania, sa compagne depuis 40 ans, le voit avec le fusil dans les mains et l'interpelle.
Rosario! Rosa! Rosa! Rosa!
Et lui de répondre, fusil à la main.
Romé! Tu me connais?
Je suis pas une tête brûlée. Mais il faut régler cette affaire. Et il faut la régler comme ça. Sans se cacher. J'étais clair.
Rosa, Rosa.
Romé.
Essaie de me comprendre. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire semblant de ne pas savoir, qu'un père ne peut pas faire semblant de ne pas savoir, des choses qu'il faut défendre, coûte que coûte. Sinon, on n'appelle pas ça des pères. Sinon, on n'appelle pas ça des hommes. Essaie de me comprendre.
Rosario, moi, franchement, j'ai rien compris. Dans cette histoire, c'est toi qui commandes. Fais ce que tu as à faire, mais je ne veux pas me faire de mouron.
Et comme ça, fusil à la main et clarté au cœur, il avait fendu la foule. À son passage, celle-ci s'ouvrait comme si elle reconnaissait en lui un autre Moïse, annonciateur d'un ordre nouveau. Il s'était posté derrière Maria et avait hurlé en direction de la foule.
Le premier qui essaie de l'arrêter, je vous jure que je le tue de mes propres mains.
Et puis, il avait déchargé son fusil en l'air, histoire de ne laisser planer aucun doute. Aujourd'hui, Maria était presque au seuil de la majorité. Et depuis quelques années, à chaque fois qu'elle marchait dans la rue, elle devait feindre d'être sourde, pour ne pas entendre les subtils commentaires de bon ton jalonnant le passage de sa majestueuse allure. Elle avait été une petite fille normale, discrète, sans signe particulier, sans fait particulier. Une petite fille. Rien de particulier en général, ni dans son intelligence, ni dans ses désirs, pas même dans ses aspirations. Une petite fille. Elle voulait devenir maîtresse d'école, comme les petits garçons veulent devenir mécanicien ou pompier. Puis un jour, elle s'était réveillée avec les lèvres toutes rouges, des abricots sur la poitrine, et un nouveau parfum de désir qu'elle laissait flotter derrière elle à son insu. Certains avaient alors commencé à baisser la voix en lui parlant. D'autres à plisser les yeux pour tenter de donner plus de profondeur à leur regard en lui parlant. Mais plus Maria s'aventurait dans les rues, plus le désir bienséant devenait grossier, s'exprimant d'abord du bout des lèvres, puis effrontément. Maria, décontenancée dans un premier temps par toutes ses attentions, avait ensuite décidé de les ignorer, tout simplement. Et elle ne remarquait pas les clins d'œil, les variations de ton. Elle n'entendait pas les phrases offensantes qui faisaient allusion à tout ce qu'on voyait d'elle au soleil.
Espèce de mufle.
Avait-elle dit une seule fois et puis plus rien du tout. Rosario Lafu avait 3 enfants. Un garçon en Allemagne et 2 filles. En apercevant Maria avec un Smith & Wesson 9 mm dans la main, il avait écouté les rumeurs animant la foule. Il avait alors songé aux anecdotes des piliers de comptoir, aux gaillardises en apparence inoffensives qui fusent dans les bars, sur les places, au coin des rues. Apparemment inoffensives.
Oui, oui, la sœur de Jésus-Christ. La Sainte Vierge.
Non, pas la Sainte Vierge. La sœur de Jésus-Christ.
Celle-là, la moitié du village l'est faite.
Et moi, je me suis retrouvé dans l'autre moitié.
Elle joue de ses tours, celle-là.
M'en parle pas.
Sainte Vierge. Sainte Vierge.
Voilà. Quand il avait repensé à ce genre d'échange apparemment inoffensif, alors une petite lumière s'était allumée en lui.
Mais bordel, moi aussi j'ai 2 filles. Et même si elles ont fait des études, même si elles ne me donnent pas de fil à retordre, même si ce sont de braves filles, elles doivent être accompagnées partout où elles vont. Comme si elles étaient infirmes. Mais bordel, mais comment c'est possible un truc pareil ?
Et donc, quand il avait vu de ses propres yeux Maria, un pistolet presque plus grand qu'elle à la main, pistolet dont le poids la courbait d'un côté, cela avait déclenché quelque chose chez lui. Évidemment, je ne dis pas. Il se peut que cette Maria soit un peu dingue. Il se peut que ces types-là, elle les ait provoqués avec quelques mots de trop. Il se peut qu'avec ce type, Angelo le couillon, elle ait déjà eu des histoires. Mais c'était quoi cette chose au cœur ? Ce tremblement ? Cette agitation qui le traversait ? C'était quoi ? Voilà comment d'un coup quelque chose s'était allumé en lui. Il avait couru chez lui, petite armoire au fond du garage, avait ouvert le cadenas, avait empoigné son fabarme à 2 coups, l'avait chargé. Puis il avait rejoint la foule et s'était placé derrière la jeune fille. Maria ne s'était aperçue de rien. Elle continuait à marcher, inexorablement et en silence. De loin, l'un de ses amis, Mimmo Caruso, avait vu Rosario et s'était inquiété.
Rosario ! Mais bon sang, qu'est-ce que tu fous ?
Et Rosario avait répondu.
Je fous que le premier qui essaie de l'arrêter. Je jure que je le tue de mes propres mains. Et si t'es un homme, va chez toi. Prends ton fusil et file-moi un coup de main.
Les mots avaient résonné comme amplifiés. Et ceux qui ne les avaient pas entendus de la bouche de Rosario les avaient entendus colportés par la foule qui les faisait siens. Si tu es un homme. C'est ce qu'il avait dit. Si tu es un homme. Les mots tombaient au sol comme les perles d'un collier arraché. Si tu es un homme, pouvait-on entendre ? Si tu es un homme. Et il fallait être homme. Il faut être humain. Sinon, il nous reste quoi, bordel ? Pas vrai ? Et voilà comment, d'un coup, d'autres étaient apparus, et avec eux, beaucoup de fusils. Tous ceux du club des chasseurs, tous les vieux. Ils s'étaient postés derrière Maria, dans son dos, et eux aussi avaient prononcé cette phrase.
Le premier qui essaye de l'arrêter, on le tue de nos propres mains.
Il l'avait répété au cas où certains n'auraient pas compris. Mais Maria ne s'était aperçue de rien. Elle ne s'était même pas retournée. Elle traçait sa route, avançait droit devant elle, et plus précisément vers la maison d'Angelo le couillon, parce qu'elle voulait le regarder droit dans les yeux et lui dire
« Et maintenant, de nous deux, voyons qui n'a pas le choix. »
Chapitre 4.
La configuration des lieux peut être un atout majeur dans le combat. C'est pourquoi estimer la situation de l'ennemi et calculer les distances ainsi que le degré de difficulté du terrain de façon à se rendre maître de la victoire, c'est l'art du général éminent. Celui qui se bat en possédant une connaissance de ses facteurs est sûr de sa victoire. Une armée victorieuse l'est avant de chercher le combat. Une armée vouée à la défaite se bat sans l'espoir de vaincre.
La trahison émane toujours de ceux dont tu te méfies le moins, sinon ce ne serait pas une trahison. C'est pourquoi on peut imaginer que Judas n'était ni moche ni méchant, qu'il n'était pas antipathique, qu'il n'était pas de ceux dont tu te dis en les croisant « Lui, il a la tête de quelqu'un qui va t'arnaquer, moi je te le dis. Lui, tôt ou tard, à celui-là, je ne confierai même pas mon chien pour qu'il l'emmène pisser. » Non. Non. Au contraire, il est probable que non. Il est probable que Judas était fiable, cordial, indulgent, un ami. Il est probable qu'il était l'un des meilleurs amis de Jésus-Christ. Il est probable qu'on disait de lui « Qui ? Judas ? Non. Lui, il ne ferait jamais ça. » On disait sûrement la même chose de Teresa. Qui ? Teresa ? Non. Elle ne ferait jamais ça. Mais tu rigoles. Teresa est la meilleure amie de Maria. Non, mais franchement, tu rigoles. À un moment donné, Teresa était sortie de la foule. La meilleure amie de Maria. Elle avait essayé de s'approcher, mais la foule faisait son possible pour tenir Maria à distance, pour la protéger, pour laisser autour un espace vide. Un vide impossible à remplir entre l'être et l'agir. On ne pouvait pas l'approcher. Et puis ces hommes avec un fusil à la main, ça faisait peur tout de même. Alors Teresa avait fait la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle avait couru devant, jusqu'à repérer un balcon, elle était montée. Et quand Maria était arrivée à sa hauteur à portée de voix, elle s'était mise à hurler dans une tentative désespérée d'affirmation de soi.
Maria ! Maria, arrête-toi! S'il te plaît, arrête-toi, ne fais pas de conneries! Je t'en supplie, arrête! Ne fais pas de conneries, Maria! Laisse tomber cette histoire, elle est plus grande que toi, elle te dépasse, laisse tomber! Sans vouloir te... Allez, si tu réfléchis bien, au fond, c'est toi qui as commencé. Je veux pas dire que c'est ta faute, mais... Regarde-moi une seconde, Maria! Arrête-toi, merde! Tu vas t'arrêter, oui ? Si tu réfléchis bien, Maria, c'est un peu toi qui l'as provoqué. Si tu réfléchis bien, tu l'as provoqué. Il n'est quand même pas devenu fou d'un seul coup. Faut pas déconner. Allez, ne fais pas ta chieuse. Ne fais pas ta chieuse comme à ton habitude. Arrête-toi ! Tu te balades comme si tout était dû. Tu sais, moi aussi, j'étais hier soir. Et j'ai vu... J'ai vu comment tu le traites celui-là, comment tu les traites tous d'ailleurs. Allez, tu ne peux pas dire le contraire. Et puis même, ta façon de t'habiller, avoue, tu exagères un peu. Je veux pas dire, mais tu te balades avec de ces décolletés et après tu dis que tout le monde m'a tes seins. C'est pas vrai ? Ils m'a tous mes seins ! Faudrait être aveugle pour ne pas les regarder tes seins au PD. Merde ! Allez, arrête-toi ! Réfléchis bien, parce qu'avec cette histoire de provocation à cause d'une paire de jeans moulants, à cause de ces décolletés, ils peuvent te coincer, ils l'ont déjà fait. C'est 30 ans de tôle, c'est pas rien putain. Allez, arrête-toi.
Il est probable que Teresa avait de bonnes raisons de dire ce qu'elle était en train de dire. Probable. Quelque temps auparavant, alors qu'elle rentrait chez elle aux abords du terrain de sport, elle avait aperçu sous la véranda de l'une des maisons qui bordent la route un garçon très mignon mais qu'elle trouvait plutôt antipathique. Il était considéré comme l'un des beaux gosses du village, inatteignable. Quand ils se croisaient dans la rue, ils se saluaient à peine. Au contraire, à la moindre occasion, ils disaient du mal l'un de l'autre. Bref, de toute évidence, ils ne se supportaient pas. Puis, ce jour-là, alors qu'elle rentrait chez elle, il devait être environ 7 heures du soir. Le soleil poursuivait sa course vers l'horizon, laissant un dégradé orangé. Sur sa gauche, sous la véranda, il y a ce garçon, un t-shirt rouge, les cheveux sur les épaules, le visage lisse, une brume de douceur qui la regarde. Elle a l'impression de le voir pour la première fois. Il a l'impression de la voir pour la première fois.
Tu vas où ?
Sa voix jure avec la situation. Elle est repoussante, comme elle l'a toujours été. Mais tout le reste dit autre chose. Tout le reste dit « ne pars pas ».
Je rentre chez moi.
Quelques secondes de silence. Ils se regardent dans les yeux. Regarder quelqu'un quelques secondes dans les yeux peut être fatal. On change des destins entiers juste en regardant quelqu'un quelques secondes dans les yeux. Il dit
« Entre ».
Et elle entre. Il la guide jusqu'à la chambre à coucher. Elle le suit. Il retire son t-shirt. Elle retire son t-shirt. Il baisse son short, s'allonge sur le lit. Elle aussi. Ils commencent à s'embrasser et ils font l'amour. Comment cette chose a pu se produire, nous ne le comprendrons jamais. Mais peut-être que se regarder dans les yeux, de cette façon... Après l'amour, elle reste un moment couchée sur sa poitrine, puis elle se rhabille, franchit la porte et rentre chez elle. Elle n'est pas célibataire, lui non plus. Par hasard, le soir, il se retrouve dans un groupe avec d'autres et il se salue à peine. Il lui dit « Ciao ». Laconique, elle répond « Ciao ». C'est incroyable un tel secret. Qui sait combien de secrets de ce genre il y a ici ? Va savoir qui a couché avec qui. Impossible de le déceler comme ça à l'œil nu. Pas vrai ? Le lendemain, vers 7h du soir, par hasard, elle se retrouve à passer par là. Lui, par hasard, de nouveau sous la véranda. Ils n'échangent pas un mot. Elle entre dans la maison, ils font l'amour, puis elle se rhabille et s'en va. Cette chose secrète se répète pendant 2 mois, peut-être 3. Puis un jour, en rentrant à la maison, toujours vers 7h du soir, elle le voit sous la véranda, tout semble normal. Ils entrent dans la maison, tout est normal. Ils se déshabillent, s'allongent comme à chaque fois. Normal. Mais une fois qu'elle est nue, allongée sur le lit de nouveau de façon inattendue, ils se regardent dans les yeux, se regardent mieux, comme le premier jour, mais plus encore. Plus, plus loin, plus en profondeur. Un instant qui change le monde entier. Un seul instant et je ne suis plus rien. Il lui dit
« Rhabille-toi et va-t'en. »
Teresa reste là un moment, comme quand, enfant, on l'avait surprise en train de voler quelque chose. Comme le jour de ses premières règles. Le jour d'une main inattendue sur son sein. Une violence soudaine, insidieuse. Elle se rhabille et rentre chez elle. Mais désormais, le monde s'est écroulé. La violence a fait ses ravages à travers cet abandon qui a été la plus grande trahison de sa vie. Plus grande que le sentiment d'abandon que lui avait laissé sa mère quand elle avait disparu. Plus grande que la trahison commise par son propre compagnon. Plus grande que son redoublement scolaire. Plus grande que quand sa meilleure amie était partie en vacances sans elle. Une violence inouïe. La trahison. La trahison au moment où l'on est totalement désarmé. La trahison d'un inconnu que l'on pensait avoir reconnu et qui n'avait aucune raison de faire autant de mal. La veille, quand la bande de garçons et parmi eux le garçon antipathique était arrivé à la passion vivante, Maria, ingénument, avait souri à l'antipathique, avait parlé à l'antipathique. Elle et l'antipathique s'étaient parlé à voix basse, comme s'ils se confiaient des secrets, à l'oreille. Ils avaient éclaté de rire, elle et le garçon antipathique. Et Teresa les avait observés de loin. D'ailleurs, lui, quand il avait vu qu'il y avait aussi Teresa, il lui avait dit « Ciao ». Et elle avait répondu laconiquement « Ciao ». Et puis, il ne lui avait plus adressé un seul regard de toute la soirée. Mais Teresa avait eu l'impression que Maria l'avait fait exprès, comme toujours pour l'humilier. Parce qu'elle était belle, elle avait du succès, on s'intéressait à elle, on la regardait, elle, elle, elle. Pendant une seconde, elles avaient échangé un regard qui en dit long. Et de nouveau, Teresa avait ressenti la trahison et la terre se dérober sous ses pieds. Rhabille-toi, va-t'en. Quelle violence. Sa meilleure amie. Rhabille-toi, va-t'en. L'antipathique, Angelo le couillon, les garçons qui riaient. Rhabille-toi, va-t'en. Et elle était partie. Elle s'était enfuie. Elle avait couru, loin dans la nuit.
Maudite garce! T'en as rien à foutre des autres, toi! Tu veux toute l'attention sur toi! Mais tu te prends pour qui? Moi aussi, j'existe! Les autres aussi existent! T'en as rien à foutre de personne! Toi, tu provoques les gens! Ce mec, c'est toi qui l'a provoqué! Toi, tu traces ta route! Tu t'en fiches de tout le monde! C'est ça, la vérité! T'es une grosse salope, Maria! C'est toi qui l'a provoqué, je l'ai vu! Ce mec, c'est toi qui l'a provoqué!
En effet, quelqu'un dans la foule a commencé à lui donner raison. En effet, avait-il dit. En effet, répétait-on. En effet, avait-on entendu. Et petit à petit, ce « en effet » gonflait et devenait une bulle de murmures, de jugements, une bulle chargée de sens au sein de cette foule-là. Mais de loin, la maîtresse d'école de Maria avait entendu cette conversation. Ou plus que conversation, ce verbiage, et elle n'avait pas pu se retenir. Alors elle aussi avait cherché un balcon. Elle aussi était montée. Et tandis que la foule se passait de main en main comme un numéro de jongle, la condamnation assénée par ce « en effet », elle avait lancé un cri, venu tout droit du cœur. Cette vieille connaissait Maria depuis toujours. Une vieille maîtresse d'école, désormais à la retraite. Elle connaissait Maria depuis qu'elle était enfant. Elle l'avait vue, toute petite fille, sans même une quenotte, les mains barbouillées de peinture, emmitouflée à cause du froid. Elle l'avait vue s'endormir de fatigue sous le poids du cartable, s'inquiéter pour les devoirs à faire durant les vacances, pleurer pour le cheval d'Alexandre le Grand, sourire au rôt de son voisin de classe Samuel. Elle avait vu ses yeux bleus s'allumer, émerveillés, quand un de ses camarades avait fait un dessin pour elle. Elle l'avait rassurée quand son chien Trilo avait disparu. Elle l'avait disputée quand elle l'avait vu jouer avec la nourriture. Elle avait fait semblant de la croire, tandis qu'elle lui expliquait pourquoi elle n'avait pas fait ses devoirs. Elle avait pensé « Je sais que tu mens, je le sais. » Et elle lui avait quand même souri. Et Maria, innocente, avait montré ses dents de lait. Que dire de plus? Que peut-on dire? Que certains matins de mai, dans les pouilles, lorsque le soleil gonfle les espérances, de tels yeux et un tel sourire sont la preuve que l'on peut aussi mourir de beauté. Voilà ce à quoi elle avait songé. Et puis elle avait hurlé de toutes ses forces. Celle d'une femme de 90 ans, le cœur sur la main, la rage dans ce même cœur. Elle qui avait vu tant de merveilleux petits garçons devenir des fils de pute une fois adultes. Elle ne pouvait que hurler, en apprenant ce qu'il s'était peut-être passé, en s'apercevant que la jalousie prenait sa revanche, en entendant parler Teresa, en voyant la foule se passer de main en main, c'est en effet... comme un numéro de jongle à la recherche d'une victime sacrificielle, elle avait hurlé, de toutes ses forces, de tout le souffle qui l'habitait à 90 ans.
Vas-y, Maria! Batte-lui le cul à ces petits merdeux! Moi, je t'abandonnerai jamais!
Chapitre 5.
Ceux qui s'attendent à provoquer un mouvement de l'ennemi y réussissent en créant une situation à laquelle celui-ci doit se plier. Ils l'attirent par la patte une prise assurée et tout en lui faisant miroiter une apparence de profit, ils l'attendent en force.
Le petit Cosimino La Terre Tremble apparaît sur le seuil de la boutique d'Angelino La Sclérose, barbier et coiffeur pour hommes. Missionné pour aller chercher une bière et quatre verres à la buvette, il se retrouve, dans la candeur de ses 10 ans, devant une scène apocalyptique et le mot est faible. Ceci ne veut pas dire que malgré ses 10 ans, il ne sait pas ce qu'il doit faire. À 10 ans déjà, il a des principes de base et des missions précises à accomplir. Il se retourne et hurle à l'intérieur du salon de coiffure.
C'est du lourd! Venez dehors!
Voilà que la curiosité s'empare des 5 hommes rassemblés dans la boutique du barbier. Boutique qui est plus un lieu où se retrouvent les hommes esseulés qu'un véritable établissement commercial. Ces 5-là se postent sur le seuil et ne peuvent que confirmer la réaction du petit garçon.
Ah mais ça c'est vraiment du lourd.
Qui entre-temps a levé le camp. Le petit Cosimino a couru jusqu'au garage auto de son oncle, Mauro La Terre Tremble, justement pour accomplir l'une des missions qui lui sont confiées.
Ne perds jamais de vue Maria, la sœur de Jésus-Christ. Et quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, viens me prévenir. Fissa, fissa.
Et il y a une raison précise pour laquelle on a affublé Mauro de ce surnom, La Terre Tremble. Il est le propriétaire, le premier propriétaire au village d'une Harley Davidson, qui à son passage ne laisse personne indifférent et provoque, ceci explique cela, de vrais tremblements de terre. Ceci serait supportable s'il ne s'ajoutait à cela le fait qu'il est aussi symboliquement à la tête de la tribu des Apaches, tous du même âge et tous en possession d'une Harley Davidson. Comme si un morceau de l'Amérique, celle des films et plus précisément des films de la Beat Generation, avait migré à Erquier, dans ce petit, tout petit village du sud de l'Italie. On avait l'impression de voir débarquer d'un instant à l'autre Dennis Hopper et Jack Nicholson, bras dessus, bras dessous, pour demander « Do you want me down, babe ?» La rumeur des villages alentours affirmait « Si tu entends des grondements, ça vient forcément d'Erquier. » Mais Mauro La Terre Tremble, qui avait un garage automobile à l'entrée du village, de Maria, il en était tombé amoureux. Quand il voyait Maria, quand il la rencontrait dans la rue, il changeait. Il devenait quelque chose d'autre. Ou mieux, c'est elle qui faisait jaillir de lui ce quelque chose qui s'était caché au fond de lui. Comme s'il s'agissait d'un secret. C'était comme si Maria connaissait le secret de Mauro. Et cela le désarmait. Mais Maria était mineure. Il fallait faire attention. Faire du bordel passe encore. La Beat Generation passe encore. Les tremblements de terre passent encore. Casser la gueule à un mec qui t'a à peine regardé passe encore, mais avec une fille de 15 ans. C'était une autre paire de manches. Il fallait faire attention. À elle. À ceux qui lui tournaient autour. À ce que les autres pouvaient penser. À la famille de Maria. Un jour, elle était entrée dans le garage en poussant une bicyclette rouge d'une main, le soleil dans le dos, des violettes dans l'autre main. Elle avait demandé
« Tu répares les vélos ?»
Mauro La Terre Tremble était plongé dans un moteur. Il bidouillait des boulons et des joints. La voix l'avait comme sortie de son sommeil. Presque excédé, il avait refait surface dans la vie réelle et...
Tu sais, depuis que je te connais, tu es la mesure du monde, comme une main de Dieu posée sur ma tête, qui me bénit malgré tout. Un baume qui calme posé sur des yeux malades, tandis que je lance mes regards sur ce monde qui ne me plaît pas, Maria, non, qui ne me plaît pas du tout. Mais à présent, c'est toi la mesure de mon monde. Avec tes mains, je compte mes jours. Avec tes os, je fais un pont entre mes désirs et tes nuits. Avec ta bouche, moi je te supplie, puisses-tu encore revenir ici pour me soustraire à l'autel où se consomme le repas de l'Éternel. Salis-toi de moi. Dévoile-toi avec moi. Construisons des secrets ensemble. Parce que depuis que je te connais, moi je donne de gros pourboires aux nuits où tu n'es pas, pour qu'elles passent plus vite. Parce que j'ai peur. Peur de me diluer goutte à goutte, de m'effriter dans le vent, tandis que je cours.
Tu répares les vélos ? Hein ? J'ai crevé. Alors tu les répares ou pas ?
Bah oui. Attends une minute. Que je jette un œil. Je vais voir ce que je peux faire.
C'est comme ça que Mauro, complètement gaga, s'était emparé de la bicyclette et avait commencé à l'observer d'un œil clinique. Mais lui, il ne s'y connaissait pas en vélo. Pris par surprise, il avait décidé de tenter le tout pour le tout et avait commencé à s'affairer. Maria ne sait pas où attendre. Elle voit une moto et elle s'assoit dessus. Par la droite, d'en haut, parviennent d'intenses rayons de soleil qui délimitent l'espace et dessinent les ombres. Un tableau de Caravaggio qui a pour sujet « Jeune fille aux violettes sur moto chromée ». Mauro se retourne et la voit. Et pour la seconde fois le même jour, il est battu, terrassé, défait. Personne ne pouvait s'asseoir sur cette moto. Il ne l'avait jamais permis à personne, mais comment pouvait-il dire à cette apparition « Tu ne peux pas ». Et de fait, il ne le lui avait pas dit. Mais tandis qu'il était là à regarder cette apparition, cet ange, cet enchantement, avec le compresseur, il avait continué à gonfler la roue qui boum, avait éclaté. Le rire cristallin de Maria avait rempli l'air, avait rempli la lumière, avait rempli tout l'univers. Et Mauro, lui, le fort devant lequel tout le monde tremblait, le tremblement de terre, lui qui brisait les eaux avec un rien, Mauro avait honte. Une honte au milieu de la poitrine. L'âge qui enflammait les joues, un jeune âge. Il ne savait pas quoi faire de ses mains. Il ne savait pas où regarder. Elle avait repris son vélo et en riant, elle était repartie comme elle était venue, c'est-à-dire en poussant son vélo d'une main. Les jours suivants, quand ils se croisaient dans la rue, il baissait le regard et elle lui souriait. Elle plissait un peu les yeux et sur ses joues, ses fossettes se creusaient un peu. Et lui, il fondait comme une bûche de Noël. Cosimino entre dans le garage saturé par le grondement d'une moto et se met à hurler très fort dans l'espoir de se faire entendre de son oncle. Ce dernier ne le comprend pas et ne s'en soucie pas vraiment jusqu'au moment où il finit par distinguer sur les lèvres de Cosimino le mot « Maria ». Alors seulement il éteint la moto et dit
« Répète, répète tout de suite ».
Cosimino lui raconte ce qu'il a vu, ce qu'il sait. Ce qu'il a pu comprendre alors qu'il courait jusque-là. Le sang jaillit comme une fontaine dans le cerveau de Mauro, la terre tremble. Risque de tsunami. Il n'hésite pas une seconde. Le tremblement de terre commence. Il a massacré des gens pour moins que ça. Il a massacré des gens juste parce qu'il l'avait regardé de travers. Il lance son neveu dans une course effrénée vers la maison de ses amis. Les frères Beta, Stia Lagru, Armando Pardon et Rino Vandamme. Et entre-temps, il s'occupe du reste. Il monte sur sa meilleure amie et commence à faire le tour des quartiers. 5 minutes plus tard, la terre se met à trembler. La fierté se fait entendre dans le dos de la foule. Les chevaux vrombissent à couper le souffle. Les Harley Davidson sont au mieux de leur forme. Un inexorable tremblement de terre. Mauro fend la foule. Personne ne bronche. Certains sont pour, d'autres sont contre. Mais personne ne sait exactement ce qui est en train de se passer, même si la ronde des rumeurs bat son plein. Maria n'a adressé la parole à personne. Mauro entre dans le cordon de ses protecteurs, les vieux qui la couvrent. Un regard échangé avec Rosario Lafu, le gentilhomme chasseur, éclaircit les choses. Mauro sait qu'il ne peut rien faire contre la volonté de Maria, et Rosario comprend que Mauro doit au moins essayer. Il le laisse passer. Tout le monde assiste à cette scène, ayant pour seul son de référence. Vroom. Vroom. Mauro s'approche de Maria, mais Maria ne se retourne pas. Il la regarde, il attend. Maria ne se retourne pas. Une larme coule lentement le long de la joue de Maria. Peut-être que Maria lui parle de cette façon. Peut-être qu'elle lui dit, avec cette larme, que oui, elle s'est aperçue de sa présence. Que oui, elle s'était aperçue que quand elle le croisait, il devenait comme du beurre. Que oui, elle le savait. Mais par un étrange coup du hasard, les rôles se sont inversés. Le destin joue de tels tours. Notre destin est un farceur sans bornes. Mauro qui appelle au calme, la paix. Maria prête à la violence, en guerre. Mais elle, elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne peut pas. La larme coule, coule, coule. Une fois qu'elle a sillonné tout le visage de Maria, sans que celle-ci ne se soit retournée, alors Mauro comprend. Maintenant, il sait. Et il sait aussi ce qu'il doit faire. Il acquiesce contre son gré, alors que son cœur se brise en deux, littéralement. Il met les gaz et avance de 10 mètres. À partir de là, il l'escortera pour arrêter quiconque voudra barrer la route de Maria. Au nom de l'amour. Chapitre 6.
Qu'on me demande, comment puis-je venir à bout d'une armée ennemie bien ordonnée qui est sur le point de m'attaquer? Je réponds, emparez-vous d'une chose à laquelle l'ennemi tient et vous ferez de lui ce que vous voudrez.
De loin, à l'horizon, une petite femme vêtue de noir émet comme un râle. Un quasi-animal du sud quand on pense au sud. Une femme moustachue, une icône. Une représentation qui ne trahit pas, s'avance inexorablement. Elle se déplace au gré d'une oraison jaculatoire entre les lèvres. Elle se rapproche. Elle la prononce lèvres mi-closes, cette oraison. Presque comme si elle avait peur de la laisser s'échapper de sa bouche. Peur de la perdre dans l'air chaud. Peur que si elle laisse cette oraison partir à l'horizontale avant de croiser la jeune fille au pistolet, l'oraison s'échappe au mauvais moment et reste alors sans effet. Une femme, petite et noire, vêtue de noir, enveloppée de noir, repliée sur elle-même, repliée par la vie qui l'a fait ployer vers la terre pour ramasser le rouge des tomates, le vert des olives, l'a fait ployer vers le bas. Une femme déjà courbée, qui est mère, et mère comme doivent l'être les mères, qui doit défendre son enfant, son fils unique. Elle approche, elle se courbe encore davantage sous l'horizon de l'oraison, elle s'humilie, se range parmi les bêtes, se défait de sa dignité, se rabaisse, attend, attend que la jeune fille lui dise quelque chose. Mais la jeune fille, Maria de son prénom, avec un Smith & Wesson 9 mm à la main, passe près d'elle sans même la regarder. La femme, mère, et qui, en tant que mère, doit défendre son fils, même si elle sait, elle le sait que oui, il a fait peut-être ce qu'il a fait, peut-être, mais elle, elle doit le défendre. Alors, courbée, elle suit la jeune fille, elle la supplie. Elle s'arrête devant elle, fait entendre son oraison qu'en un seul souffle, sans discontinuer, elle récite ainsi.
Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en conjure, je te prie de tout mon cœur de mère, mon cœur ensanglanté par les épines de Jésus, mon cœur de douleur, mon cœur qui saigne comme celui de Jésus, pour la mort de Jésus, notre Seigneur éternel, bon et miséricordieux, pour le bien et la douleur et l'amour qu'il soit loué pour des siècles sur la croix, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, ne le tue pas, ne le tue pas, ne le tue pas. Le cœur sur la main, je te le dis comme une mère. Le cœur sur la main, je te le dis comme une mère. Le cœur sur la main, je te le dis comme une mère.
Elle lui avait dit, le cœur sur la main comme une mère, je te le demande. Voilà ce qu'elle avait dit. Croyant que ceci aurait pu excuser toute chose. Une chose qui justifie toute chose. Comme si en présence de leur mère, les enfants perdaient ce qu'ils ont de terrible. Comme si en présence de leur mère, quel que soit l'âge de l'enfant, la responsabilité retombait de nouveau sur la mère, comme quand ils étaient petits. Mais cette jeune fille-là ne se retourne pas. Ne la regarde pas, ne l'écoute pas. Elle continue d'avancer. Parce que cette affaire qui est propre à cette jeune fille, qui lui est personnelle, particulière, unique, qui se produit ici et maintenant, cette chose qui se situe de façon particulière, unique précisément ici, dans le temps et l'espace, cette histoire est sur le point de devenir l'histoire. Une chose qui appartient à tout le monde, à tout le village, mais aussi à toute notre honorable société peut-être. Peut-être même à l'humanité. D'un côté de la rue, il y a d'autres jeunes filles, encore silencieuses, comme pour témoigner qu'elles sont toutes là, elles sont toutes en marche, comme un peloton qui s'est présenté à l'appel, prêtes, en ligne, les unes à côté des autres, comme si elles ne pouvaient pas manquer. Et bien qu'elles ne soient pas vraiment amies avec Maria, qu'elles ne l'aiment pas trop, qu'elles ne la fréquentent pas, malgré tout cela, elles ont compris, et elles sont là. Il y a Sarah, la fille de l'électricien, avec sa tignasse blonde, ses grands yeux et ses lèvres fines, qui fait un pas en avant, comme pour se présenter au reste de la foule, comme si on la présentait sur une scène. Et elle dit « Présente ». Puis il y a Patricia Cavallo, avec son short tout moulant et ses lèvres rouges comme deux cerises. Une provocation, entendrait-on dire dans certains milieux, un débordement de vie dans d'autres. Et elle aussi fait un pas en avant. Comme si on l'avait appelée, comme appelée aux armes par une guerre invisible mais certaine, une guerre mondiale peut-être. Et elle dit « Présente ». Puis il y a Antonella Solimeo, avec ses boucles agitées et la nuit qui dévale ses épaules. Présente. Présente. Il y a Giulia, aux cheveux lisses, noirs corbeaux et aux yeux profonds comme les puits d'Orient. Présente. Présente. Et puis aussi Costanza, Assunta, Agatha, Giuseppina, elles sont toutes là. Présentes. Toutes là. Toutes qui regardent d'abord Maria et puis la mère d'Angelo Le Couillon. Puis encore Maria, qui ne les regarde pas mais qui sait à présent. Elle ne les regarde pas mais elle sait qu'elles sont unies. Elle ne les regarde pas mais elle les sent. Elle sent ses filles qui l'accompagnent. Sarah, qui est une parente de Rosa, la mère d'Angelo Le Couillon, lui hurle de loin.
Rosa ! Rosa ! Laisse-la passer ! Laisse-la faire ce qu'elle a à faire ! Arrête-toi, Rosa ! Arrête-toi !
Et alors, Rosa, mâchonnant cette supplication qui ôte toute dignité au nom du lien du sang, un lien profond, le plus profond, Rosa qui est là et se traîne au sol, qui rampe, rampe comme un ver au nom de ce fils, Rosa à présent ne sait plus. Ne sait plus ce qu'il en sera de son fils si cette jeune fille s'arrêtait, si elle ne continuait pas. Avant même d'être mère, cette femme est une femme. Voilà ce qui émane de la marche majestueuse et sans halte de Maria. Et alors la mère qui est toutes les mères, cette mère-là regarde les jeunes filles, regarde Sarah, se regarde elle-même du dehors, regarde Maria, la voit. La regarde et la voit. Elle voit son t-shirt sale, déchiré sur le côté, déformé au cou, avec une tache de sang sous le bras, une tache de sperme à droite du nombril, le pantalon sale de terre, les yeux de folle humiliée. Elle voit tout cela. Elle voit. Elle comprend. Elle s'arrête. Elle s'accroupit. Met fin à son oraison. Met fin à l'humiliation. Elle arrête. Et choisie, ignorante, sans savoir entre quoi et quoi. Elle n'arrive vraiment pas à le comprendre. Mais en s'arrêtant, en ne poursuivant pas, en s'arrêtant, elle a choisi d'être femme. Loué soit Jésus-Christ. Chapitre 7.
Dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun avantage. N'avancez pas en vous reposant exclusivement sur la puissance militaire. La fragilité, la faiblesse, placées au bon endroit, sont puissance.
Mais voici le moment le plus difficile pour Maria. La rencontre avec son père, la rencontre avec sa famille, sa mère, sa grand-mère, son frère Simone, surnommé par tous Jésus-Christ. Les voilà qui descendent de voiture à la hauteur de la rue du Calvaire, à 50 mètres du magasin de meubles. Maria ne s'arrête pas, ne peut pas s'arrêter. Elle regarde toujours droit devant elle, Elle avance. Mais un tremblement de terre secoue la terre des sentiments. La terre de l'appartenance, cette terre du remords. Tout tremble. Le père fait un pas en avant. Il entre dans le champ visuel. Une secousse dans les jambes la fait vaciller. Maria perd presque l'équilibre. Pendant un instant, elle pense qu'elle devrait s'arrêter. Elle pourrait le faire, pour ce père qui est là, pour lui, pour ne pas lui donner d'autres soucis, pour ne pas lui causer d'autres contrariétés, pour stopper tout ce cirque villageois qui se nourrira d'elle, de son corps, de ses faits et gestes pour les années à venir. C'est certain, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tout tremble. Mais soudain, le ciel se déchire et nous voilà projetés très loin dans le temps. Nous voilà directement sur le Golgotha, directement au moment du doute. Ce moment de manque, où l'on se sent homme ou femme, mais fragile, petit, où on a besoin d'amour, d'être guidé encore par la main de quelqu'un qui nous regarde et nous dit, quel que soit notre âge, nous regarde et avec amour nous dit
« C'est juste, tu n'es pas seul. » Tu n'es pas seul. C'est cela qui est juste. Et tu n'es pas seul. Moi, je peux te soutenir. Mais cette chose-là, c'est à toi de la faire. Moi, je te regarde. Je te regarde, mon cœur. Moi, je te tiens la main, mon cœur. Mais cette chose-là, c'est à toi de la faire.
Tout tremble. Maria voudrait s'arrêter, voudrait regarder son père dans les yeux, voudrait lui prendre les mains, le serrer dans ses bras, se laisser serrer dans ses bras, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas s'arrêter maintenant. Son père ne bouge pas, il ne bouge pas mais sourit. Elle a l'impression qu'il sourit. Il ne l'arrête pas mais il la soutient. Et le voilà, le miracle. Le soutien de ceux que nous aimons est un miracle. Le soutien de ceux que nous aimons quand nous nous trouvons dans le cœur noir de la nuit.
Au nom de la loi, je vous invite à poser cette arme à terre et à décliner votre identité. Immédiatement. Au nom de la loi, arrêtez-vous.
Au nom de la loi. Ces mots sont prononcés par l'un des deux gendarmes qu'il y a dans le village, l'un des hommes de loi, il n'y en a que deux. Depuis toujours, plus que faire respecter la loi, ils assistent aux affaires. Et dans ce cas-là aussi, ils ne peuvent qu'assister aux événements. Le gendarme a déroulé le protocole, il a dit la phrase que la loi lui impose de prononcer, et puis il s'est placé derrière la voiture pour voir comment cela allait se terminer. La foule commence à arriver, compacte. En première ligne, Mauro Latter tremble, éteint le moteur de sa Harley et attend. Dans l'ordre arrivent ensuite le père et la mère de Maria, qui ont pris le bras de Rosa, la mère d'Angelo Lecuyo, puis la grand-mère de Maria. Simone, le frère que tout le monde appelle Jésus-Christ. Puis toutes les jeunes filles en ligne. 10 hommes avec leurs fusils. La vieille maîtresse d'école. Des garçons en shorts et chaussures à talons, ridicules. Des voitures, des scooters. Le type de la station-service. Mimino qui tient la laverie et sa mère. Titino, l'épicier. Domenico, le photographe. Francesco de la quincaillerie. Et leurs épouses et mères et filles respectives. Tous en ligne. Tous en silence. Maria ralentit, s'arrête. Lève le pistolet. Un enfant dit
« Papa, mais elle va lui tirer dessus !»
Et le père s'empresse de répondre. Elle s'approche lentement de l'entrée du magasin de meubles et disparaît dans l'obscurité qui l'engloutit. Le ciel s'assombrit. Le vent emporte tout au loin. La perspective change. Épilogue.
Bonjour, Maria. Je t'attendais. Pendant un moment, j'ai eu peur que quelqu'un t'arrête, mais heureusement, personne ne l'a fait et tu es là. Magnifique. Très belle. Tu penses que je t'ai fait du mal ? Toi aussi, tu m'en as fait. Bien sûr, à ta façon. Mais ce n'est pas moins douloureux pour autant. Et hier, je me demandais à qui la faute ? Qui est le fautif ? Puis j'ai compris. Ce n'est pas ma faute, ni la tienne. Parce que ce n'est pas une question de faute. En fait, c'est simple. Tout le monde fait du mal à tout le monde. Et on ne s'en aperçoit même pas. Ce n'est pas vrai, Maria. Tu sais, hier soir, quand tu es arrivée, moi j'avais du désir pour toi. Et toi, tu as commencé à jouer avec moi, à te moquer de moi, de là-haut, depuis ton piédestal, tu riais. Puis j'ai commencé à avoir peur. Incroyable, pas vrai ? Peur. Une putain de peur. Et alors je ne sais pas ce qui m'a pris. Pour une fois dans ma vie, au lieu de subir, j'ai eu envie de réagir. Je me suis levé, et je t'ai attrapé par le cou, et je t'ai soulevé. Et là, il s'est passé quelque chose. Toute ma peur est devenue violence. Et moi, essaie de me comprendre. Je me suis senti vivant. Je me suis d'abord étonné moi-même, et puis j'ai senti un flux irrépressible. Et je me suis senti entier et vivant. Bon sang, vivant ! Et enfin, j'ai compris. Alors que je te faisais violence, alors que les autres regardaient, alors que j'étais sur toi et que tous assistaient à la scène, j'ai compris. Il n'y a rien d'autre. Il n'existe rien d'autre que la violence. Sacrée et omniprésente violence. Pour la première fois, j'ai vu les hommes tels qu'ils sont. L'histoire de l'homme est l'histoire de ses actes de violence. L'histoire des dieux qu'on nous impose d'adorer est l'histoire de leurs actes de violence sur nous. Le monde n'est pas tel que nous le voyons, Maria. Tu comprends ça ? Bien sûr que tu le comprends. Et c'est pour ça que tu es ici, regarde-toi. Regarde-toi. Tu es là avec un pistolet à la main pointé directement sur mon visage et tu es sur le point de me faire ce que moi je t'ai fait et tu es sur le point de me faire violence. Tu es sur le point de comprendre. Allez. Vas-y. Tire. Tire.
La sœur de Jésus-Christ, d'Oscar de Souma. Traduction, Federica Martucci.
Avec Oja Lorca, Yilin Yang, Cindy Vincent, Teddy Mélis, Marie-Bénédicte Roy, Léo-Antonin Lutinier, Tariq Cariou, Paul Fougère, Mathis Saint-Bert, Sébastien Faglin, Julien Héricot, Clément Laguarde, Julie Anne Roth, Jean-Christophe Quenon, Lucie Gallo, Nicolas Pietri, Sophie Bourrel, Martin Bocquien, Nathalie Canoui, Michel Baladi, Jade Labeste, Nolwenn Peter-Schmidt, Benoît Marchand, Pascal Kammerbeck, Sylvain Saussereau, Adrien Zumthor, Émilie Pierson, Grégoire Blanchon.
Musique originale, Jean-Philippe Morel. Interprété par Jean-Philippe Morel et Bruno Elstrofer. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Valentin Azan et Pierre Lemaire. Assistante à la réalisation, Aurélie Mermont. Réalisation, Laurence Courtois. La Sœur de Jésus-Christ est éditée aux éditions théâtrales. Ce texte a été repéré par le bureau de lecture de France Culture.